La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Nous sommes des élèves de 4e 6 du collège Saint-François d'Assise à Aubenas. Dans le cadre des journées européennes des métiers d'art, nous réalisons des interviews de plusieurs artisans d'art. Aujourd'hui, nous allons interviewer une tisserande fileuse. Nous sommes au CDI et recevons Madame Aurélie Labbé, qui travaille au vaisseau-mère. Bonjour Madame Aurélie Labbé.
Bonjour.
Nous allons vous poser des questions concernant votre métier de tisserande fileuse. Ensuite, votre parcours professionnel et votre formation. Tout d'abord, vous possédez un atelier au vaisseau-mère, deux vaisseaux. Pouvez-vous nous présenter cette structure ?
Eh bien, le vaisseau-mère, c'est un tiers-lieu qui a été créé, je crois, il y a 7 ans. C'est un ancien prieuré qui a un vaisseau à côté de l'église et qui a été racheté, tout d'abord pour faire un habitat partagé. Et ensuite, il y a une partie du bâtiment qui a été achetée par l'association Le Vaisseau-mère dans le but de faire des ateliers d'artisans, mais aussi un espace de coworking et aujourd'hui un café associatif qui est en train d'ouvrir. Donc l'idée de ce lieu, c'est de proposer des événements, d'avoir des ateliers, d'être un espace de vie sociale aussi et de travail.
Quels sont les différents artisans installés ici ? Avez-vous le temps d'échanger entre vous ?
Le vaisseau-mère, c'est un lieu où vraiment c'est important. L'association, en tout cas, a vraiment la vocation de mettre les gens en relation. Donc, il y a des espaces où vraiment on se rencontre, on fait des choses ensemble, on a beaucoup de travail aussi parce qu'on organise beaucoup d'événements. Donc, en fait, on se côtoie énormément entre les différents artisans et aussi les habitants qui sont dans le vaisseau-mère. Donc, c'est un lieu où il y a quand même, pour l'instant, je crois, à peu près 25 personnes. Donc on se voit énormément, on fait des chantiers participatifs aussi très souvent parce que c'est un énorme lieu à restaurer et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Et d'ailleurs, ce lieu a quasiment été restauré pendant 7 ans qu'avec les énergies bénévoles. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges entre nous. Et oui, par rapport aux différents artisans qui sont installés au vaisseau-mère, il y a beaucoup d'activités très différentes. Il y a un maroquinier qui fait des chaussons, qui partage mon atelier, qui est mon compagnon. Il y a aussi une compagnie de danse, une compagnie de marionnettes, un naturaliste, une traductrice, des gens qui travaillent sur le numérique, des graphistes, des artistes. Chloé qui est dessinatrice, qui fait partie des GEMA aussi. Et puis il y a deux costumières. Et aussi un dessinateur, une peintre. On est assez nombreux, hein, en vrai. Voilà.
Nous avons lu que vous étiez installé dans la Drôme auparavant. Pourriez-vous nous dire pourquoi avez-vous quitté la Drôme en 2022 ?
Alors, la Drôme, je l'ai quittée pour des raisons personnelles. C'est que, simplement, c'était des problèmes de logement. C'est très compliqué de se loger dans la Drôme. Donc, j'avais un autre atelier dans la Drôme. Finalement, j'avais plus d'opportunités en Ardèche. Et aussi, pour mon travail, ici, j'ai plus de possibilités. On est dans un lieu qui est quand même un petit peu plus habité que là où j'étais avant.
Que faites-vous dans votre atelier ?
Alors, dans mon atelier, je fais beaucoup d'ordinateurs. C'est le lot des artisans aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de temps qu'on passe à faire la communication. Moi, je propose beaucoup de stages et d'ateliers. Donc, je dois beaucoup communiquer là-dessus. Donc, je gère énormément les appels, les gens qui prennent des informations, proposer des programmes de stages et tout ça. Donc, je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur et aussi pour gérer des associations liées à mon travail aussi. Donc tout ça, c'est énormément aujourd'hui informatisé. Donc j'y passe trop de temps à mon goût. Et puis j'ai un petit peu de temps pour tisser parfois. Donc je tisse sur un très gros métier à tisser que je viens d'installer, mais aussi sur tout un tas de métiers à tisser qui sont très très, qui ont plein de tailles différentes, qui viennent de régions du monde très différentes aussi. Donc j'aime bien quand j'ai un petit peu de temps pour tisser aussi dans mon travail.
Afin de découvrir votre métier, Aurélie, nous allons vous poser des questions sur votre manière de travailler. Avant toute chose, en quoi consiste le métier de tisserande et le métier de fileuse ?
Alors, tisserand, le tisserand travaille à partir de fils qu'il va installer sur un métier à tisser pour pouvoir tendre ses fils et ensuite pouvoir les ouvrir. Pour pouvoir passer un fil de trame. Donc, on va entrelacer les fils pour former le tissu. Ça, c'est le métier de tisserand. Et le tisserand utilise pour ça des métiers à tisser. Tu as plein de modèles de métiers à tisser différents qui servent à faire du tissage. Et puis, le métier de fileuse, je ne sais pas si c'est vraiment un métier aujourd'hui pour moi, parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps de travail. Donc, moi, je fais des fils à partir de laine brute, que je vais souvent récupérer chez les éleveurs. Je la lave, je la peigne. Déjà, tout ce travail-là est très, très long. Et puis ensuite, je vais la filer. Donc la filer, c'est tordre la matière pour former un fil, tout simplement. Donc à l'aide d'outils, alors il y a des outils plus ou moins élaborés. Donc si on veut aller un peu rapidement, on utilise un rouet. Et puis si on a un petit peu plus de temps, et puis pour faire certains fils particuliers, on peut utiliser le fuseau, qui est un outil qui date du néolithique. Très, très ancien. Et je travaille aussi à partir de matières végétales que je cultive dans mon jardin. Donc, je cultive du lin et puis tout un tas aussi de plantes comme les orties, comme les genêts, comme toute une famille aussi, une grande famille textile qui s'appelle les guimauves, les mauves, toutes les malvacées, qui donnent des fibres textiles. Et j'extrais ces fibres pour les transformer en fils et en cordelettes. Et d'ailleurs, mon jardin se visite. Pour ceux qui ont envie d'essayer, je propose des ateliers où on fabrique soi-même sa petite cordelette à partir du lin du jardin, par exemple.
Travaillez-vous seul ou en équipe ?
Alors moi, les tisserands sont des gens très solitaires. D'ailleurs, en ce moment, on est en train de créer une association nationale et c'est vraiment une grande nouveauté pour les tisserands de connaître déjà d'autres tisserands. Donc moi, par contre, j'adore travailler à plusieurs. J'ai toujours envie d'inviter des gens pour collaborer avec moi. Donc il y a une amie avec laquelle je travaille régulièrement à quatre mains pour essayer déjà d'échanger sur nos pratiques et puis nourrir notre créativité ensemble. Donc j'aime beaucoup ces petits moments-là. Et après, j'essaye de créer parfois des collaborations, par exemple avec mon compagnon qui est maroquinier, j'ai dans l'idée de proposer des créations en commun avec le cuir et le tissu. Voilà, je suis quelque part toujours en recherche d'échanger et de partager sur ma pratique.
Comment organisez-vous vos journées de travail ?
Je crois que comme tous les indépendants, j'ai la liberté de ne jamais prendre de vacances. Donc je me lève le matin, je file à l'atelier et puis bien souvent je commence par beaucoup d'ordinateurs et parfois j'ai un petit peu de temps pour tisser.
Quels sont les professionnels avec lesquels vous collaborez ?
Je l'ai déjà un petit peu dit. Quels sont les professionnels avec qui je collabore ? Avec d'autres tisserands. Et puis je ne sais pas quoi d'autre. Oui, parfois je peux travailler avec des teinturières, par exemple, qui font de la couleur. Prochainement, je vais accueillir dans mon atelier une teinturière avec laquelle on va faire des projets en commun, en fait, qui vont mêler tissage et teinture.
Réalisez-vous des créations tissées ? Si oui, où pouvons-nous les découvrir ?
Vous pouvez venir à mon atelier. Et là, il suffit de m'appeler. L'atelier peut être ouvert sur demande. Donc mes créations, disons que je travaille beaucoup à la manière d'un peintre. J'ai plus tendance à faire de la création plutôt artistique, Donc des choses qui ne sont pas très utilitaires, bien que je m'y mette un petit peu cette année aussi à faire des petites pochettes, des petites choses qu'on peut utiliser. Autrefois, je faisais de l'archéologie expérimentale. Ça veut dire que j'expérimentais les techniques du passé, donc d'époque gauloise, d'époque néolithique, par exemple, les tout premiers métiers à tisser. Donc j'ai beaucoup été vers les techniques de ces époques-là. Et puis au bout d'un moment, j'avais besoin de créer mes propres... parce que là, on est dans la reconstitution, donc c'est pas vraiment personnel comme création. Et depuis quelques années, je vais plus vers une création libre, où je vais utiliser les fils comme vraiment un moyen d'expression. Et j'aime bien dire que je travaille vraiment comme un peintre. Donc, c'est-à-dire que je travaille beaucoup avec la couleur, je m'ajoute des petites touches. Depuis d'ailleurs 2 ans, je travaille beaucoup sur la chute aussi. Donc dans mon atelier, il faut savoir que je ne perds rien. Tous les petits bouts de fil qui sont plus longs que 3 cm, je les garde. Et en général, ils servent à ajouter des petites touches de couleur dans des tissages, comme la petite touche colorée du pinceau que fait le peintre, quoi. Donc voilà, je travaille beaucoup cet aspect plutôt recherche purement artistique du tissage.
Vous pratiquez différentes techniques de tissage. Pouvez-vous nous en dire plus et... laquelle préférez-vous ?
Alors, à laquelle je préfère, je ne répondrai pas du tout parce que je ne sais pas, je ne saurais pas dire laquelle je préfère. Il y a par contre celle du moment, en fait. Il y a des modes dans mon atelier, il y a des moments où je m'attelle plus à une technique qu'une autre. Donc, il y a parmi les différentes techniques que j'ai employées, il y a le tissage aux tablettes, qui est une technique très particulière qui se fait avec des petits cartons perforés qui datent de l'âge du bronze, donc vraiment très ancien, et qui permet de faire des tissages décoratifs, mais surtout très solides. Et ça, c'est une technique qui est très complexe et que j'ai un petit peu explorée, que j'ai beaucoup, beaucoup pratiquée. Après, il y a tout ce qui est tissage de petite largeur, donc avec les ceintures, que j'aime beaucoup aussi parce que déjà c'est assez facile de s'y mettre, donc j'aime bien transmettre ces techniques là parce qu'elles sont très abordables. Je me suis intéressée pendant très longtemps aux métiers à tisser nomades, donc les métiers à tisser qu'on roule et qu'on peut mettre dans son sac à dos et emmener en randonnée. L'année dernière, j'ai proposé donc avec un groupe de sourdes un stage de 5 jours, on faisait de la randonnée et du tissage. Donc en fait, on emmenait notre petit métier à tisser roulé dans le sac à dos, on se mettait au bord de la rivière, on s'accroche à un arbre, et puis on peut tisser n'importe où comme ça. Ça, c'est des techniques que j'aime beaucoup parce qu'elles sont transportables. Et puis tisser dans la nature, c'est très chouette. Après, je travaille beaucoup sur des mini métiers à tisser. En fait, j'ai travaillé sur des métiers très complexes dans ma vie. Enfin, pas très complexe, mais assez relativement complexe. Il y a un gros métier à tisser dans mon atelier. Mais en fait, je ne peux pas m'empêcher de travailler sur des tout petits carrés en bois sur lesquels je tends quelques fils. Et puis, je tisse en quelques heures. Je vais pouvoir faire une petite création très rapidement. Donc, en fait, je me dirige plutôt vers des métiers très, très simples. De plus en plus simples. Pour libérer la créativité, je trouve que c'est plus facile.
Vous proposez des formations sous forme de stage. Quel stage peut-on suivre ?
Alors, moi, je propose des stages qui sont dirigés plutôt vers des gens qui ont envie de faire ça à la maison. Donc, des monsieur, madame, tout le monde qui se dit du jour au lendemain, tiens, j'ai envie de tisser. Ou alors, ça a toujours été mon rêve de tisser, mais par contre, avoir un gros métier à tisser... ça coûte cher, c'est trop compliqué, c'est une longue formation, j'ai pas les moyens, j'ai pas la place, parce que ça prend beaucoup de place aussi, et puis ça coûte cher. Donc, je me suis spécialisée dans les métiers à tisser faciles, les métiers qu'on va pouvoir aborder rapidement et puis se faire plaisir dessus et qui seront pas trop chers, pas trop encombrants. Donc, il y a notamment le peigne en vergeur, qui est un métier que je pratique beaucoup et qui correspond à beaucoup de gens qui ont envie de commencer dans le tissage. Ça permet de commencer de manière douce, on va dire, sans trop se prendre la tête et puis très rapidement se faire plaisir. Et il y a aussi des cadres en bois. justement, comme je disais, des petits cadres en bois, tout simples, sur lesquels on fait des choses absolument passionnantes. Ces métiers sont simples, mais on peut aller très, très loin si on veut dessus et faire tout un tas de choses. On peut faire des vêtements, on peut faire des tapis, on peut faire... voilà. Donc, c'est les choses, les stages que je propose la plupart du temps sont ces deux métiers à tisser-là. Et n'empêche que j'ai des gens qui viennent de très loin pour apprendre le tissage aux cartes, pour apprendre le tissage sur les métiers à tisser, à ceinture andin, tous ces métiers à tisser qui sont assez rares. Et on peut aussi apprendre à tisser sur un gros métier à tisser si on veut. Mais tout ça, c'est à la demande. Voilà. On peut aussi apprendre à filer dans mon atelier.
Quel public est intéressé par vos stages ?
J'ai plutôt des gens qui veulent pratiquer à la maison. Voilà, c'est plutôt du loisir. Et parfois, j'ai des gens qui ont un projet professionnel. Donc, je les accompagne pour faire au mieux. Alors, savoir que le tissage, c'est quand même un métier qui n'est pas très rémunérateur. Donc, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Et ça fait aussi partie de mon métier de conseiller les gens et que leur projet soit réaliste. Et puis, trouver des solutions parce qu'il y en a pour quand même arriver à tirer un petit peu de salaire de ce travail. Et j'ai aussi parfois des gens particulièrement intéressés par le côté pédagogique. Donc j'ai des instits, j'ai des animateurs socioculturels qui viennent pour se former pour tout ce qui est atelier en fait, et aussi pas mal de gens qui sont dans l'archéologie expérimentale, donc qui sont intéressés sur les métiers à tisser historiques.
Qu'est-ce qui vous plaît dans la formation ?
Alors, ce qui me plaît dans la formation, c'est l'échange qu'il va y avoir. Déjà, dans la formation, dans les stages, en fait, que je propose, je ne peux pas dire que je fais de la formation parce que je n'ai pas de numéro de formatrice. Donc, je propose des stages et des animations. Officiellement, c'est ça. Donc, ça va être tout ce qui va se créer d'échanges autour de ces moments-là, de transmission. Et ce qui me plaît, en tout cas, c'est de rendre possible... beaucoup de gens m'appellent en me disant... J'ai toujours rêvé de tisser. C'est quelque chose que j'entends très, très souvent. Et de voir, à une époque, surtout quand j'ai débuté, beaucoup de gens se mettaient à pleurer quand ils se mettaient à tisser, la première fois. Ça leur faisait quelque chose. Et donc, voilà, ça me plaît particulièrement. De permettre aux gens, en tout cas, de créer et puis d'aller au bout de leurs projets, de leurs envies. Et puis, moi, au passage, j'apprends énormément lors de ces formations. J'apprends à tisser, moi aussi, en fait, par tous les stagiaires qui passent.
Nous avons lu sur votre site internet que vous aviez créé un jardin de textiles. Pouvez-vous nous le présenter et nous dire pourquoi ?
Alors, le jardin des textiles, il est né il y a 2 ans, à Saint-Andéol-de-Vals, au hameau du Monteil. Donc, il faut l'accéder à pied. Depuis le village, il y a une vingtaine de minutes de randonnée, on va dire, pour monter jusqu'au jardin depuis le village. Et j'y cultive 7 variétés de l'indifférent, toute une collection de malvacées, rose trémière, mauve, guimauve, etc., qui sont toutes des plantes textiles, du coton, des orties et puis des plantes exotiques aussi qui donnent des laramies. L'année dernière, j'ai fait du jute aussi. Et donc, toutes ces plantes donnent des fibres qui sont très intéressantes. Et mon idée, c'est de transmettre, de permettre de découvrir ces plantes qui sont un peu l'avenir de la filière textile. C'est à la fois le passé, mais aussi l'avenir, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la filière textile est une des plus polluantes au monde, peut-être la plus polluante. On a vraiment des gros problèmes de recyclage avec toutes ces matières qui s'accumulent, qui font des catastrophes en Afrique, où on envoie tous nos tissus et où la mer devient une mer de tissus synthétiques et qui tue tout, en fait. Donc c'est un vrai problème. Donc aujourd'hui, c'est quoi les solutions qu'on a ? Et il faut se tourner vers les matières qu'on peut cultiver de manière locale. Donc le lin, c'est une fibre qui est écologique de toute façon, parce qu'il y a très peu besoin de produits chimiques pour cultiver du lin. En tout cas, voire quasi pas. Donc c'est quasiment toujours écologique le lin, enfin bio en tout cas. Et puis, c'est local, ça produit énormément. C'est une plante qui est très productive et qui coche toutes les cases, qui est confortable. Voilà, les seules choses, c'est que c'est un peu cher parce que ce sont des processus qui sont longs pour la transformer. Donc, l'objet de ce jardin, c'est vraiment parler de ces sujets-là et aussi faire l'expérience parce que souvent, on ne sait pas d'où viennent nos vêtements, tout simplement. Donc, les gens peuvent extraire eux-mêmes de la fibre de lin et fabriquer une petite cordelette et se rendre compte du processus. Et parfois aussi, ça peut leur faire se rendre compte pourquoi c'est si cher. Parce que, bah oui, c'est un processus long, mais par ailleurs, c'est une fibre qui en vaut vraiment la peine. Ça peut les aider à faire des choix.
Selon vous, quelles sont les qualités indispensables pour être tisserande fileuse ?
La première qualité du tisserand, donc il y a la patience, beaucoup de patience, puisqu'on va mettre un jour et demi avant de tisser. Il y a un jour et demi au moins de travail pour mettre les fils sur un gros métier à tisser, par exemple. Il y a des métiers qui sont plus rapides, mais voilà, sur un gros métier, ça va être ça. Et on va toujours être confronté à des problèmes inédits. Il va falloir trouver des solutions. Donc, je crois que la première qualité du tisserand, c'est trouver des solutions à des problèmes techniques. Et puis après, évidemment, la créativité.
Nous allons maintenant vous poser des questions sur votre parcours et diplôme. Quelle étude avez-vous suivi ? Pour quel diplôme ?
Alors, il y a très peu de diplômes de tisserand. D'ailleurs, on se pose beaucoup la question avec l'association des tisserands qui est en train de démarcher. Comment faire un parcours diplômant ? Mais il n'y a pas de diplôme. Donc, j'ai fait vraiment un parcours hors des sentiers battus. J'ai fait de l'archéologie expérimentale en République tchèque, dans un village médiéval où on faisait de la reconstitution. Après, j'ai fait une formation professionnelle de 3 mois seulement que j'ai auto-financée auprès de Sylvie Boyer, qui est une tisserande qui a formé beaucoup, beaucoup de monde, qui a beaucoup d'expérience. C'était fabuleux dans son atelier. Une belle formation, mais je me la suis auto-financée. Et après, j'ai travaillé dans un village gaulois pendant 1 an et demi. J'y faisais des jardins, j'y faisais du tissage. J'étais déguisée en gauloise. Le matin, je partais au travail. Justement, les anecdotes, c'était rigolo parce que j'habitais dans une résidence où il y avait beaucoup de... C'était très moderne. Et puis, je partais le matin en sabots. Je prenais ma voiture et j'étais déguisée en gauloise. Les gens devaient peut-être me prendre pour une folle, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je partais avec mon déguisement de gauloise. Et c'était souvent pieds nus aussi dans le village gaulois. Donc c'était mon travail, en fait, pendant 1 an et demi, de faire la gauloise. C'était scientifique, hein. c'était pas du déguisement, on va dire. C'était vraiment pour l'étude scientifique, la vulgarisation. Donc j'ai pas suivi d'études, en fait. Le métier de tisserand, il s'apprend sur le tas et on expérimente des choses. Maintenant il y a internet, à l'époque il n'y avait pas trop, mais maintenant sur internet, moi je me forme beaucoup sur internet, en fait. Il y a des écoles de tissage sur internet qui sont très très pointues, c'est super. Voilà. Et les livres.
Que signifie être volontaire européenne ?
Alors, le volontariat européen, c'est... Moi, j'ai passé mon bac. Et après, j'ai fait 4 mois d'université. Et ça m'allait pas du tout, en fait. Ce parcours-là me convenait pas. Je crois que je suis quelqu'un d'un peu atypique. Et les sentiers battus, les rails, ça me correspondait pas du tout. Et très vite, je suis sortie de ce système-là. Et on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas un volontariat européen ? Donc, d'ailleurs, en Allemagne, je crois qu'après le bac, tous les jeunes font un volontariat européen. Ça laisse une année pour tester quelque chose et aller découvrir, en fait, un milieu, un peu du travail aussi, autre. Pour s'ouvrir un peu les écoutilles, quoi. Donc, je suis allée... Alors, j'avais un peu j'avais une idée en tête. Je voulais faire de l'archéologie expérimentale parce que je voulais apprendre à faire du feu. Je voulais apprendre à faire ma propre corde. Je voulais apprendre la botanique. Je me disais, mais pourquoi on n'apprend pas tout ça à l'école ? Il faut apprendre ça dans la vie. Donc, je suis partie dans cette idée-là. Et c'est là qu'en République tchèque, donc, ils m'ont acceptée dans une association. Donc, le volontariat européen, c'est un programme européen où on part entre 6 mois et 1 an. Dans une association dans un pays européen. Donc on apprend la langue, on a des cours de langue, on a un petit peu d'argent de poche et on est nourri, logé. Et c'est jusqu'à 30 ans possible de faire ce volontariat européen. On passe par une association qui envoie, donc il faut prendre contact avec une association en France qui envoie et qui contacte l'autre association qui est dans l'autre pays. Et donc c'est un échange en fait entre ces deux associations-là. Et il y a plein de domaines intéressants. C'est vraiment toujours social, culturel ou écologique. Ou, voilà, il y a plein de projets absolument passionnants dans ces programmes européens.
Quel a été votre ressenti après votre premier stage avec Marie-Pierre Puybarré qui vous a permis de découvrir le tissage ?
Oui, alors Marie-Pierre, ça a été la première. Je vous avais bien étudié la chose. Donc Marie-Pierre, ça a été justement quand je suis arrivée en République tchèque. Ce jour-là, ils étaient en train de retourner un champ de lin pour semer du lin. Donc avec des pelles en bois, uniquement en bois, hein, avec un petit bout en métal au bout, mais voilà, c'était pas facile. Et donc on retournait notre champ de lin, on a semé le lin et eux ils savaient préparer le lin pour extraire la fibre et après ils savaient pas faire. Et ils m'ont dit, ils ont vu que ça m'intéressait, ils m'ont dit, si ça te dit, on te paye le stage, un stage, tu choisis quelqu'un et tu vas apprendre et tu nous montres après. Donc j'ai contacté Marie-Pierre, qui est une grande spécialiste de l'archéologie textile. C'est une tisserande qui a travaillé pour plein de musées et qui transmet beaucoup aussi ces techniques-là. Quand je suis arrivée chez elle, elle nous a tout appris. En une semaine, on a fait de la teinture, on a fait du filage, on a fait du tissage aux tablettes, on a fait du tissage sur métier néolithique. Je ne sais pas comment elle arrivait à caser tout ça en une semaine. Mais en fait, j'ai eu une panoplie absolument formidable de techniques. Et j'avais l'impression quand même de réaliser une sorte de rêve. De tester toutes ces techniques. Et quand je suis retournée là-bas, eh ben, j'ai continué et j'ai transmis toutes ces techniques-là là-bas.
Qu'aimez-vous le plus dans votre métier ?
Partager avec les stagiaires et avec les gens. Et quand même aussi jouer avec les matières et les couleurs.
Et pour finir, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients du métier de tisserande ?
Alors, les inconvénients, c'est que déjà, on ne roule pas sur l'or. Bien souvent, il faut avoir un autre métier à côté pour assurer le quotidien. Donc, c'est vraiment un métier passion qu'on choisit par passion. Sinon, ça ne marche pas. En tout cas, si on cherche à faire de l'argent avec, c'est raté. Après, les avantages, c'est justement que c'est une passion et que tous les jours, quand je vais dans mon atelier, je suis contente d'y aller. Et ça, je crois que c'est une richesse que peu de gens ont aujourd'hui. Quand tu vas au travail le matin, de te dire « Waouh, trop génial !»
Participez-vous à des salons et si oui, lesquels ?
Alors moi, je fais très peu de salons. Mais il y a la fête de la laine à Cré, dans la Drôme, que je fais tous les ans et pour lesquelles, en général, je suis embauchée pour faire des animations, des conférences, des démonstrations. Tous les ans, ils me demandent un défi, même parfois. Parfois, c'est vraiment des défis. Ils me disent « Allez, est-ce que tu es partante pour faire ça ?» Je dis « C'est impossible, mais je vais le faire. » Donc, c'est le principal salon que je fais. Sinon, c'est beaucoup d'animation, plutôt sur des événements ici et là, mais c'est assez anecdotique. Je travaille plutôt dans mon atelier.
Sur quel projet travaillez-vous ?
Alors, cette année, j'ai un gros projet, c'est de tisser les fibres de mon jardin. Donc, je commence à accumuler pas mal de matière. Et j'ai enfin un gros métier à tisser aussi avec mon nouvel atelier où avant j'avais pas d'atelier donc j'avais pas de gros métier à tisser. Et je commence à accumuler pas mal de matière, de fils que j'ai fait à partir du lin, à partir de plein de toutes les plantes de mon jardin. Et j'ai vraiment envie de les tisser. Et c'est un peu particulier, tisser ces fibres c'est assez particulier donc je vais me faire accompagner par une tisserande qui a l'habitude de ces matières-là. Parce que c'est assez difficile de travailler les fibres végétales. Des petites choses à connaître.
Pourquoi votre site se nomme Fer fil de tout poil ?
Je crois que je l'ai assez expliqué pendant toute cette interview. C'est que dans mon atelier, on peut travailler toutes les matières. Alors vraiment, Je travaille avec des matières parfois qui sont peu répandues, comme par exemple le poil de chat. On peut filer son poil de chat dans mon atelier, de chien, du crin de cheval aussi. On peut travailler des fibres végétales qui sont très peu communes, des fibres d'arbres, et aussi du synthétique, puisque je fais beaucoup de recyclage et je récupère énormément de fils d'usines textiles qui jettent des quantités de matière assez conséquentes et que j'essaye de valoriser. Donc en fait, on travaille tous les poils dans mon atelier.
Merci Aurélie Labbé d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Merci.
Merci.
C'était Eden Gabin et Lynn, élèves de 4e 6 du collège Saint-François d'Assise d'Aubenas.
Au revoir.
Au revoir.
C'était
La Voix des Jeunes.
Un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.